je vais parler de la passion de Dieu, de la passion de Jésus-Christ et de la passion de l'Esprit. Et puis, demain, je vais aller un peu plus loin et je vais parler de façon très pratique sur comment être rempli d'Esprit, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça ressemble d'être rempli d'Esprit, d'être conduit par l'Esprit, de marcher par l'Esprit. Qu'est-ce qui empêche aussi la marche par l'Esprit? Enfin, beaucoup de choses qui nous intéressent, nous tous, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment est-ce qu'on attriste l'Esprit? Et puis on arrivera à peut-être à s'abandonner à l'Esprit. Pour qu'il fasse de nous des hommes et des femmes que Dieu veut que nous soyons. Et puis, mercredi soir,
donc on va continuer et travailler sur cet aspect des hommes et des femmes que Dieu veut que nous soyons. Donc le titre, ça sera « Oser la passion pour Dieu ». Et donc on va d'abord définir ce que c'est que la passion pour Dieu, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis on va essayer aussi de comprendre pourquoi la passion pour Dieu, et c'est pas franchement une option. Et puis enfin, on va essayer d'aborder quelques aspects sur Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Et on sait très bien que c'est pas une chose facile. Et donc on va aussi regarder comment on peut avancer avec ça et puis comprendre et trouver quelques pistes pour toujours plus aimer notre Père, notre Sauveur. Et notre Seigneur.
On commencera pendant une heure et demie. Je vous propose qu'on puisse se lever et que nous puissions nous remettre au Seigneur pour ces temps. Nous invoquons ton nom, toi créateur des cieux et de la terre. Nous invoquons ton nom car nous désirons te connaître. Personne d'entre nous peut prétendre qu'il te connaît, mais notre soif à nous, notre faim, c'est de te connaître. Toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et tu vois, nous allons avoir du temps ensemble, ce soir, demain soir et après-demain, pour nous, pour parler entre nous, pour nous régaler de toi, connaître ta bonté, goûter ta bonté, se nourrir de ta bonté, de ta grâce. Père, puisque maintenant nous pouvons oser le nom de Père, même de Papa, et je te prie que tu m'aides dans ce que tu as mis sur mon cœur. Père, je me présente humblement devant mes frères et sœurs, devant toi. Délie ma parole, délie et donne-moi cette liberté, cette aisance que je n'ai pas naturellement. Viens-moi en aide et que ton esprit soit libre au milieu de nous. Père, nous te disons, parle-nous ce soir. Nous en avons tous besoin. Parle-nous. Dis-nous quelque chose. Viens visiter nos profondeurs. Nous nous courbons devant toi, notre Père, en te reconnaissant que tu es Dieu sur toutes choses. Et nous sommes tes enfants. Et des enfants bien-aimés, nous te bénissons pour ta grâce, ta présence assurée, ta faveur sur nous. Nous louons ton nom. Nous élevons ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
J'ai entendu l'histoire d'un homme qui avait une passion. Cette passion, c'était d'élever des asticots pour aller à la pêche. Il en parlait pendant une heure non-stop. Pour nous, les asticots, pour aller à la pêche, c'est presque dégoûtant, n'est-ce pas? Mais lui, c'était sa passion. La question que je vous pose, c'est quelle est votre passion? À vous les jeunes, quelle est votre passion? C'est quelle série votre passion? C'est quel jeu vidéo votre passion? C'est quelle musique votre passion? C'est quel sport votre passion? Et puis nous, les plus âgés, c'est quoi notre passion? Qu'est-ce qui nous fait vibrer au fond de nous? C'est une grande question, parce que la passion amène la satisfaction, le plaisir et le plaisir. C'est Dieu qui l'a créé. On ne peut pas vivre sans plaisir. Et Dieu nous montre sa passion dans toute la parole, la passion de Dieu. Au moment de Noël, on parle souvent de Ésaïe chapitre 9, et vous le connaissez par cœur, je vais juste le dire pour vous rappeler quelque chose, la passion de Dieu. Car un enfant, verset 6, nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du ciel, Prince de paix. À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin sur le trône de David et dans son royaume pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice, dès maintenant et à toujours. Et maintenant vient la passion de Dieu. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Le mot passion dans aujourd'hui est un peu galvaudé. On est passionné de tout. Et dans la parole, la passion se voit de différentes manières. Ici, la jalousie ou le zèle ou la passion de Dieu va faire cela. C'est-à-dire qu'un jour, Jésus va être le roi, le trône de David. Aujourd'hui, Jésus est un roi qui est rejeté. Mais la jalousie, la passion de Dieu va l'installer sur son trône pour l'éternité. À toujours. Ça, c'est la passion de Dieu. Puis dans le Nouveau Testament, vous voyez Jésus. Et là, un caractère qu'on ne connaît pas. Le Seigneur Jésus vient, il est dans le temple, il voit tout ce qu'il voit, c'est-à-dire on fait du trafic, et là, la violence, il y a de la violence, c'est de la passion. Il fait une corde, et il chasse les marchands du temple, et il dit quoi ?
Zèle.
Le zèle de ta maison me dévore. C'est pas la passion, ça? Me dévore. Me fait mal. Souffrant. Je voudrais vous montrer quelque chose. On va vous faire un petit peu avec quelques versets que j'ai mis sur ma tablette et on va pouvoir travailler à partir de là, si vous voulez bien. Dès que ça se passe. Voilà. Le verset, c'est le plus long que je puisse avoir, je crois. Un verset est tiré de Genèse chapitre 17, quand Dieu s'approche d'Abraham et lui dit, il lui donne une parole, et une parole de bénédiction. Et il lui transmet un message, et ce message, l'Éternel parla et dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta semence d'après toi, en leur génération, pour être une alliance perpétuelle, afin que... Bon, c'est raté. Pas grave. Écoutez, afin que je sois ton Dieu, j'établirai mon alliance entre moi et toi et ta semence après toi. C'est ce désir de Dieu de venir dans la vie d'Abraham et être pour Abraham et sa descendance le Dieu dont ils ont besoin. Que je sois ton Dieu. Je vois là la passion de Dieu. Je veux être ton Dieu, je veux être proche de toi. Et pour cela, je vais établir une alliance. Et il le dit à Abraham, qui est le père de tous les croyants. On pourrait dire, oui, mais Abraham, c'est loin. Abraham, c'était pour le peuple d'Israël. Sauf que l'Épître aux Galates nous dit quelque chose. L'Épître aux Galates nous dit que si nous sommes de Christ, nous sommes de la semence d'Abraham.
Alors pourquoi nous sommes de la semence d'Abraham? Parce que Abraham est le père de tous les croyants, c'est-à-dire qu'il a eu cette confiance en Dieu, que Dieu qui a, lui a apporté cette parole, tu auras un fils, il a cru Dieu, il n'a pas fait attention à l'état de mort du sein de sa femme, qui un jour était belle et maintenant elle est vieille, un peu comme nous les femmes, un jour on était jeune et beau, maintenant on est plus que vieux. Il n'a pas fait attention à cela, il a cru Dieu, et Romains 4, Paul nous dit qu'il a même commencé à glorifier Dieu, parce qu'il sait que Dieu peut même ressusciter les morts. Et l'apôtre Paul nous dit tout cela pour nous dire que finalement, cette foi en un Dieu de l'impossible, ça lui a été compté à justice, traduit en français courant, ça lui a été crédité sur son compte. Je vous donne un exemple. Quand vous n'étiez pas converti, est-ce que le salut était déjà là? Question. Bien sûr. Le salut a été fait par le Seigneur Jésus-Christ. Mais il a été appliqué dans votre vie le jour où vous l'avez reçu à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de sang ni de la volonté de l'homme ni de la chair, mais de Dieu. Ceux qui croient en son nom. Vous avez cru au nom du Seigneur, ça a été crédité. Et nous tous qui avons reçu le Seigneur, nous sommes semence d'Abraham. La semence d'Abraham, nous dit ici l'apôtre Paul dans Galates, c'est Christ. Mais il est le Père de nous tous. C'est ça qui est intéressant pour nous. À chaque fois que vous allez accepter une vérité de la parole de Dieu, ça va être crédité à votre compte. C'est le Père de la foi. Il nous a montré ce chemin-là. Ce qui est intéressant aussi ici, j'établirai une semence et j'aurais souligné, si j'avais mon truc marché, j'aurais pour être une semence, une alliance perpétuelle. C'est-à-dire qu'il ne se termine pas. Et c'est ça ce dont nous avons besoin. C'est quelque chose de perpétuel, quelque chose d'éternel, quelque chose, une satisfaction, une alliance entre quelqu'un qui veut faire une alliance et ce quelqu'un, c'est notre Dieu, celui dont on vient de chanter, celui qui est le Dieu d'éternité, celui qui est avant l'univers, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. L'univers est pâle. L'univers est pâle par rapport à Dieu lui-même. Et c'est ce Dieu-là qui vient faire une alliance avec nous. C'est ça sa passion, la passion de Dieu. Pourquoi Dieu veut-il faire une alliance avec nous? Il veut être ton Dieu. Je veux être ton Dieu. Vous entendez la passion de Dieu? Et on va voir tout à l'heure que c'est un Dieu qui est personnel, un Dieu qui est proche. Et pour cela, il fait une alliance. Et je vais aller un peu plus loin. Je vais parler de cette alliance qu'il a faite. Cette alliance, il l'a faite avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même, son propre Fils, qu'il a donné. Et cette alliance, vous savez, quand on prend le pain et le vin, le Seigneur dit, quand on lit Luc, chapitre 22, je crois, ou 20, verset 22, peu importe, et vous le savez, il dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. C'est ça, c'est la nouvelle alliance. Ça, c'est le prix de l'alliance que Dieu a contractée, cette alliance éternelle, il l'a contractée au prix du sang de son propre fils. Ceci est la nouvelle alliance. Nouvelle alliance en opposition avec l'ancienne alliance. Mais c'est l'alliance dont il parlait là. Et maintenant, on va aller un peu plus loin. Cette alliance, elle est très précieuse pour nous. Parce qu'elle nous fait rentrer dans un nouvel état de choses. Nous étions morts, nous sommes nés morts, et Jésus est venu pour nous apporter la vie, et la vie en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Alors que nous étions morts, Dieu qui est riche en miséricorde, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce. Nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble avec le Christ dans les lieux célestes. Cette alliance-là, c'est cette alliance qui refait de nous des hommes et des femmes absolument nouveaux. Des nouvelles créatures. Je crois que j'en ai parlé abondamment l'année dernière quand j'étais ici. Des nouvelles créatures. C'est... Si vous dites encore, je suis converti, je suis au Seigneur, j'aime le Seigneur, mais que vous dites que votre cœur est, comment, tordu, tortueux et pervers, comme dit Jérémie chapitre 17, où il est dit, qui le connaît, ce cœur? Jérémie chapitre 17, où il est dit, le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui le connaît, moi, l'Éternel? Je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun, selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Ce n'est plus votre cœur, ça. Ça, c'est le cœur d'une personne qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas entrée dans l'alliance. Nous sommes dans cette alliance. Nous sommes des hommes et des femmes nouveaux. Nous sommes dans cette alliance de Jérémie 31, où il est dit, mon alliance, chapitre 31, verset 31, j'établirai avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda, semence d'Abraham, tout autant que nous sommes semence d'Abraham, une nouvelle alliance, non selon l'alliance que je fis avec leur père, un peu plus loin, mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les eus repoussés. Donc, une nouvelle alliance. Verset 33, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur et je serai leur Dieu. La passion de Dieu. La loi n'a pas fonctionné. Donc, il fait avec nous une nouvelle alliance, une alliance dans le sang, scellé du sang du Seigneur Jésus-Christ. Quand on prend le vin le dimanche, on se souvient de la mort et de la résurrection du Seigneur, on se souvient que nous sommes dans une nouvelle alliance. Et si vous ne prenez pas votre place dans cette nouvelle alliance, vous n'allez nulle part dans votre vie chrétienne. Il n'y a pas de croissance, puisque vous essayez de faire certaines choses, alors votre moteur ne fonctionne pas. La nouvelle alliance, c'est le moteur. La nouvelle alliance, c'est la vie même de Jésus-Christ. Jésus a donné sa vie pour nous. Ah oui, il n'y avait que lui qui pouvait nous racheter. Mais il nous a donné sa vie. De telle manière que il est marqué ici, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. Et je serai leur Dieu. Vous voyez la façon de Dieu? Je serai leur Dieu. C'est tout ce que Dieu demande, qu'ils soient notre Dieu. Et ils seront mon peuple. Est-ce que vous entendez le désir de Dieu là? Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Ça vous fait quoi dans votre cœur, ça? Ça vous fait du bien? Vous le cherchez? Ça résonne, ça vibre chez vous. Mais moi, je sens le cœur du Père qui m'appelle. Il nous a approchés par le sang de son Fils. On n'est pas à un mètre de lui, on n'est pas à 50 cm de lui, on est sur ses genoux. Il est notre Dieu, maintenant notre Père. Et nous sommes son peuple. Plus que son peuple, ses propres enfants, disons, le peuple, ça peut être un peu éloigné. C'est pour ça que je disais, c'est un Dieu personnel. Et on va voir que dans cette nouvelle alliance, nous avons reçu tout ce qui concerne notre vie sur la terre et tout ce qui concerne la vie ou la relation avec Dieu. Selon chapitre, selon Pierre, c'est Jérémie 32, j'ai aussi pris ce verset, mais c'est la même chose. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Si vous regardez dans la parole, combien de fois l'accent est mis, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est le cri de Dieu qui désire nous avoir dans une relation profonde. Et je leur donnerai un seul cœur, une seule voix pour me craindre tous les jours. Alors vous allez dire, oui mais Bertrand, mais quand même, moi je pêche. Oui, bien sûr. N'empêche que nous sommes dans la nouvelle alliance. N'empêche que Dieu nous considère comme ses enfants bien-aimés. N'empêche que Dieu nous considère comme ses saints. N'empêche que Dieu se régale de nous. Pardon ? Personne n'a réagi. Dieu se régale de nous. Il nous voit, il est en Christ. C'est ça, il nous voit en Christ. Et Christ, qui est-il ? Il est beau. Et nous, nous sommes cachés en lui, et notre vie est en lui. Ça te fait quoi, mon frère, dans ton cœur, ça ? C'est ça, ça nous fait du bien, mais ça doit nous secouer de fond de nous, de voir cet amour où Dieu nous a donné son Fils. Et c'est là où il dit, mais qui enverrai-je ? Qui enverrai-je ? J'ai besoin d'un peuple, je veux être leur Dieu. Qui enverrai-je ? Et le Seigneur qui répond, me voici. Envoie-moi, il n'y a qu'un seul racheteur qui peut le faire. Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Vivre dans cette nouvelle alliance est possible si seulement Jésus nous aime. Peut-être j'ai donné cet exemple l'année dernière, je ne me souviens pas. Si je te demande, c'est juste pour expliquer, si je te demande, Jonou Bétov. Vous avez raconté cette histoire la dernière fois. Jonou Bétov, si tu veux bien. Et tu vas nous jouer Bétov, n'est-ce pas? Donc, notre chère sœur va nous jouer Bétov. Et tu dis, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais ce n'est pas tout à fait Bétov, ça. Jonou Bétov. Alors, elle va s'entraîner 3 mois plus tard. Et on va faire une rencontre. Et puis voilà, elle va nous jouer Bétov. C'est mieux, mais c'est oui, c'est très bien. Parce que nous, Français, on est assez positif, n'est-ce pas? Donc, on dit c'est bien, mais quand même, tu devrais encore un peu essayer, quoi. Et tu vas essayer, tu vas essayer, tu vas essayer. Finalement, tu vas te dire, mais ça ne marche pas. J'y arrive jamais. Pourquoi? Elle peut tirer sur ses chaussettes comme elle veut. Hein. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui faudrait pour jouer Beethoven? Antonin, être Bétov. Et la nouvelle alliance, Dieu nous donne Christ en nous pour vivre sa vie. Et vous voulez un verset pour ça? Vous voulez un verset? 1 Jean chapitre 4. Et regardez bien, ça c'est encore la passion de Dieu. La passion de Dieu, l'amour de Dieu. Verset 9. En ceci a été manifesté la passion de Dieu, l'amour de Dieu pour nous. C'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, dans le but de, que nous vivions par lui. Nous vivions par lui. On n'est pas appelé à vivre la nouvelle alliance scellé par le sang du Seigneur, par nos propres forces. Enfin, essayez si vous voulez, quand vous serez fatigué, vous allez trouver une autre solution. Enfin, ça ne marche pas. C'est avoir une belle voiture sans le moteur. Regardez le verset 41. 40. Je ferai avec eux une alliance éternelle, je ne me retirerai point d'auprès d'eux pour leur faire du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur pour qu'ils ne se retirent pas de moi et je me réjouirai en eux pour leur faire du bien. La plupart d'entre nous ici, ou beaucoup d'entre nous, je suis sûr, a une mauvaise image de lui-même. Ce n'est pas du tout ce que Dieu a de vous. Parce que Christ est en vous. parce que vous êtes en Christ. Parce qu'il y a cette union entre Christ et avec Christ et vous, vous êtes devenu agréable dans le bien-être. Agréable. Ça veut dire que Dieu se régale de nous en nous voyant. Mais si vous voulez que ça soit vrai, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez que ça soit vrai pour vous, faites comme Abraham. Croyez cela, croyez la parole de Dieu, et ça va être porté à votre crédit. Et vous allez voir que l'action de l'Esprit en vous va vous faire vivre ces choses-là. C'est ça. Il n'y a rien de plus simple que ça. Imaginez de ne douter de rien de ce que Dieu vous donne. Vous allez vivre des choses extrêmement claires. Vous serez dans votre destinée. Je vais regarder encore un verset de la passion de Dieu. Car comme une ceinture s'attache au rein d'un homme, attendez, l'image est magnifique, ainsi dit l'Éternel, le « je suis de Moïse ». Le « je suis de Moïse », c'est le Jésus du Nouveau Testament. « Je me suis attaché à toute la maison d'Israël et à toute la maison de Juda, dit l'Éternel, pour être mon peuple. » Je ne sais pas comment expliquer ça, plus que ça. « Pour être mon peuple. » Écoutez, il est serré, il se colle à nous. On va exploiter cette image. L'amour de Dieu nous étreint de telle manière qu'il ne nous lâche pas comme ma ceinture tient mon pantalon. Et ne me lâche pas. C'est Dieu parle en image parce que Dieu est esprit. Il faut bien que nous puissions comprendre cela. De telle manière que son action fait de nous un peuple, son peuple, et un renom. Et une louange et un ornement. Pour qui? Pour lui, pour Dieu. Nous sommes donc capables de glorifier Dieu. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. On ne parle pas de nous-mêmes. On ne parle plus de nous-mêmes. On n'a pas la force. On le sait. Il faut qu'on apprenne encore ça parce que souvent on a des velléités. Ce que, voilà. De revenir avec nos propres forces pour plaire à Dieu. Vous plaisez à Dieu. Vous êtes, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est bien un, agréable. Agréé, c'est ça que ça veut dire. Et agréable pour lui aussi. Un renom, une louange, un ornement. Mais ils ne vont pas éduquer. Qui enverrai-je? Et le Seigneur a répondu, « Me voici, envoie-moi. » Qu'est-ce que pouvait faire Dieu pour chercher des hommes et des femmes qui s'étaient tournés vers eux, vers eux-mêmes, et occupés de satisfaire leurs besoins, puisqu'ils s'étaient eux-mêmes coupés de la source des eaux vives? Les besoins devaient être remplis, ils étaient coupés. Et Dieu va chercher le moyen, il a trouvé le moyen, et le Seigneur Jésus dit, c'est moi qui vais venir. Et on le sait, de Corinthiens chapitre 8, je crois, il a quitté la gloire, il s'est dépouillé de cette gloire, de telle manière qu'il puisse répondre à la passion de Dieu. J'étais au Mali, il y a quelques mois, et notre collègue, que certains connaissent peut-être, Sylvie Fuchs, qui est au Mali depuis 15 ans, Bamako, elle accueille depuis 9 ans des garçons de la rue. C'est-à-dire, ce sont des jeunes entre 6 ans et 20 ans qui viennent le lundi matin à 6h du matin jusqu'à 14h et ils vivent dans la rue. 40 jeunes. Et ces 40 jeunes, ils ont vécu tous les abus possibles et inimaginables. Ils se sont enfuis de l'emprise des images et Sylvie les accueille le lundi pour qu'ils puissent au moins avoir un petit déjeuner, un repas correct. et puis qu'ils puissent laver leur linge, faire un peu des travaux manuels et leur présenter la parole. Elle me dit, puisque tu es là, je ne veux pas leur donner quelque chose. Comme je ne sais pas dire non, j'ai dit oui. Mais je ne voulais pas leur raconter une histoire de la Bible. C'est grave. C'était complètement en dehors de leur contexte. Et j'ai dit, Seigneur, on fait comment tous les deux? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Et quand je me suis levé, je leur ai dit, écoutez, vous savez, je ne peux pas, vous ne pouvez pas leur parler plus de 10 minutes. Ils n'ont pas l'attention, ils se chicotent pas tout le temps, ils sont tout à fait énervés. Ils n'ont pas du tout l'habitude, ils ne savent pas lire ni écrire. Et je leur dis, si vous aviez tous les pouvoirs du monde, ça ils comprennent. Si vous pouviez faire ce que vous vouliez, parce que vous avez le pouvoir, et que vous vouliez parler aux souris, alors là, je dis, qu'est-ce qu'il raconte ce plan? Si vous vouliez parler aux souris, et que vous aviez tout, et que vous avez tous les pouvoirs du monde, qu'est-ce que vous feriez? Ah, ils essayent, deux, trois trucs, ils essayent. Je dis, ben non, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Et je leur dis, mais si vous aviez tous les pouvoirs du monde, si vous vouliez communiquer avec les souris, qu'est-ce que vous feriez? Vous faudrez vous-même devenir souris. Excusez-moi. Mais ils ont compris quelque chose. Ils disent, c'est ce que Dieu a fait là. Il a donné Jésus. Et c'est Jésus qui nous parle du Père, de Dieu. Vous savez, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, qui a passé l'éternité dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Vous vous rappelez, Jean le Baptiseur, qui annonce la venue du Messie, du Seigneur, et qui dit, toute montagne sera abattue, toute vallée sera comblée, tout chemin tordu sera fait droit. Mais qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était simplement en train de dire que les principes du monde actuel, tout va être chamboulé. Tout ce qui est haut élevé dans le monde, ça va s'écrouler. Tout ce qui est méprisé, ça va être élevé. Tout ce qui est tordu va être mis d'équerre. Et quand le Seigneur vient, il dit, voilà, Marc chapitre 1, il dit, le royaume de Dieu s'est approché. Juste dire ce verset-là. Le royaume de Dieu s'est approché. Le temps, oui. Jésus, verset 14, vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous, ça veut dire changer de croyance. La repentance, on dit toujours que la repentance est un changement de comportement. On dit qu'on se retourne, n'est-ce pas? C'est, on change. Mais vous ne pouvez pas changer de comportement si vous n'avez pas changé vos croyances. Vous avez un comportement parce que vous croyez certaines choses. Et vous êtes ici parce que vous avez eu le comportement de venir passer ici cette soirée au lieu de faire d'autres choses parce que vous avez une foi et une confiance et une... que la parole de Dieu va peut-être vous édifier. Et donc, ça a influencé votre comportement. Et là, il dit, repentez-vous, parce que je vais vous annoncer le royaume de Dieu. Tout ce que je suis, tout ce que je fais, tout ce que je dis, la puissance que je dégage, l'affection que j'ai, les émotions que je présente, toute ma personne est en train de dévoiler celui que personne n'a jamais vu et que personne ne verra jamais dans ce sens-là, n'est-ce pas? Lui l'a fait connaître. Celui qui est dans le sein du Père, lui, il le fait connaître. Et il amène des principes du royaume, c'est-à-dire, c'est l'autorité de Dieu. Et il va visiter toutes nos... Allez, on va voir. Toute notre vie. Il va visiter tous les centre de notre vie, l'argent. Dans le monde, vous avez quelque chose, vous le gardez, c'est à vous. Le Seigneur dit, oh, tu vas le multiplier si tu le donnes. Il va parler de sexualité, il va parler de relations dans le couple, il va parler de relations dans la famille, il va parler de des relations hiérarchiques, le plus grand. Non, non, ce n'est pas le plus grand qui va commander, c'est le serviteur qui va commander. Donc tout va être visité. Dans l'évangile, il va amener un royaume à l'envers. C'est pour ça que personne ne comprend. C'est très, très bref ce que je dis. Mais quand vous comprenez que Jésus est venu pour répondre à la passion de Dieu, et lui-même passionné par l'obéissance à Dieu, il vient démontrer qui est Dieu. Il est le resplendissement de sa gloire. Ou de sa face, comment il dit ? De sa gloire. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Ben, je comprends que tout ça marche de telle manière que dans Jean chapitre 17 au verset 26, à la fin de sa prière, il dit quoi ? Je leur ai fait connaître ton nom. Et nous, tout ce qu'on cherche, c'est de connaître le nom de Dieu. Si je connais le nom de Dieu, je sais qui il est, il peut être alors mon Dieu. Et je peux vivre dans cette alliance qu'il a promise et qu'il est une alliance perpétuelle. Et une perle que le Seigneur Jésus nous montre dans son vécu sur la terre. Il dit dans Marc, chapitre 10, il dit, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour, est venu pour servir. Et ça, c'est immense. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, est venu pour nous servir. Et aujourd'hui, il continue à nous servir. Nous, nous pensons que nous servons Dieu. C'est juste dans un sens, n'est-ce pas ? Mais c'est lui qui fait tout. Et que de toute façon, Dieu n'a pas besoin de nous. On le voit dans les livres des Actes, quand Paul parle aux Athéniens, il dit, mais Dieu n'a pas besoin de nous. Il se satisfait lui-même. Mais il vient pour nous servir. Quand vous comprenez que Dieu vient vous servir, est-ce que vous êtes d'accord de vous laisser servir par Dieu ? Aujourd'hui, il nous sert. Il nous sert par... Il nous sert par son intercession. C'est-à-dire qu'il prie pour nous. Il nous sert par son intercession. Hébreux, chapitre 4, verset 15. Il nous sert par la sympathie qu'il nous manifeste. Hébreux, chapitre 7, verset 25, il dit, il est toujours vivant pour sauver entièrement ceux qui... Pour ceux qui s'approchent de Dieu par lui, il nous sert. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous acceptez cette notion, cette vérité, que Christ nous sert, que Dieu lui-même est venu pour nous servir, votre prière change entièrement. Puisque vous lui dites, Seigneur, tu ne peux pas me servir avec ceci, tu ne peux pas servir mon frère avec cela. On prie absolument différemment. Et vous savez que dans la gloire, il s'approchera de nous. Et là encore, il s'avancera et nous réussira. Une idole est un maître dur et cruel qui exige et qui enferme et qui ligote, quelle que soit l'idole. Jésus nous sert. C'est lui qui se met à nos pieds. Vous savez que ça est absolument extraordinaire. Ça, c'est la passion du Seigneur, de manifester qui est le Père. Je voulais encore dire quelque chose sur... On va chanter un point.
On propose de chanter le cantique 122 des Rosiers. 122.
revenir sur le verset 4, 26 de Jean 17. C'est un verset quand même assez extraordinaire. Écoutez, Jésus qui dit à son Père, je leur ai fait connaître ton nom. C'est-à-dire toute ma démarche sur la terre, toute mon attitude, toute ma façon d'être a démontré qui tu es. Tout ce que je connaissais de toi, je l'ai montré au monde. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître. La passion de Jésus aujourd'hui. La passion de Jésus quand il était sur la terre, c'était de nous faire connaître le nom du Père. La passion de Jésus aujourd'hui, dans le ciel, le vivant, celui qui a été mort et qui voici, je suis vivant au siècle des siècles, sa passion, c'est de nous révéler les différentes facettes du nom de Dieu. Dans nos circonstances, il va nous révéler le nom de son Père et je leur ferai connaître. C'est maintenant que ça se passe. Vous vous posez des questions. Et comment ça se fait que j'ai ces difficultés? Comment ça se fait que je passe par des moments si difficiles? Pourquoi cette épreuve? Et on se pose mille et une questions. Et nous avons chacun nos épreuves. Et nous avons chacun nos chagrins et nos blessures profondes. Et si Jésus était en train de vous révéler le nom du Père dans cette circonstance, vous allez connaître le Seigneur d'une autre manière. C'est dans le besoin. Ce n'est pas dans l'opulence qu'on le connaît. C'est dans le besoin. Si vous placez votre confiance dans ce Dieu qui est le Dieu d'éternité, qui répond, qui écoute la prière et qui répond, qui vous dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Si vous placez votre confiance en lui dans votre circonstance, ça va être porté à votre crédit. Chaque acte de foi est porté à notre crédit. Et nous croissons de foi en foi. Nous, c'est la maturité, ça c'est la croissance. Sans la foi, impossible de lui plaire. On veut souvent connaître la volonté de Dieu. Ça, c'est un grand sujet parmi les croyants. Ah, si je pouvais connaître la volonté de Dieu. Nous savons déjà qu'elle est bonne, agréable ou agréée et parfaite. Mais quand même, on dit, Seigneur, révèle-moi ta volonté pour plus tard. Est-ce que vous croyez que Dieu est bon? En tout temps. Quand vous n'avez rien à manger. Même là. Et quand on le lit, c'est un peu différent. Quand on a une grande difficulté dans la vie, est-ce que Dieu est encore bon? Quand le tunnel dans lequel on se trouve est court, vous voyez, ça veut dire que des fois le tunnel il est tout droit, on voit la lumière au fond. Mais là, le tunnel est court. Il y a une sortie. Qu'est-ce que nous dit Dieu? Celui qui craint l'Éternel, son serviteur qui entend la voix de son serviteur, l'Éternel qui entend la voix de son serviteur, qui se confie en lui, en son serviteur, en l'Éternel, et qu'il s'appuie sur son Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Ça serait davantage la question à poser, ça serait, qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre? Qui es-tu dans cette circonstance? Je veux te connaître dans cette circonstance. Je veux te rencontrer là et voir ta puissance dans cette circonstance, dans ma vie. Parce que les circonstances vont me transformer d'une telle manière que je vais être un témoignage aussi à l'extérieur à sa gloire. Troisième chose de ce verset-là, je leur ai fait connaître ton nom. Je le leur ferai connaître. C'est aujourd'hui. Donc la question c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre de toi? La troisième chose, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. L'amour dont
la passion de Dieu vis-à-vis de son Fils soit en nous, de telle manière que nous, on va devenir aussi, allez-y, osez le mot, passionnés. Et c'est cette passion qui va nous donner la satisfaction de notre vie. Je l'ai dit au commencement, il y a 1000 passions dans le monde, et le nombre est faible. 1000 passions. Mais ce sont des passions qui vont s'arrêter un jour. Et même la passion dans le mariage, elle est pour un temps, elle est bonne. Mais elle est pour un temps. La passion pour et la satisfaction que nous avons en celui qui nous aime, cette relation avec lui, ça dure, ça va durer. C'est une alliance éternelle. Mais il y a de la concurrence. C'est ça que Dieu dit. Il y a de la concurrence. Et de là, et pour terminer ce verset, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, c'est cette passion-là. Et moi en eux. Et on va voir ça plus tard. Christ en nous, on va le voir dans maintenant, mais aussi demain. Maintenant, on va passer à la passion de l'Esprit, si vous voulez bien. Juste avant sa mort, le Seigneur dit, écoutez, moi j'ai fini, j'ai montré au monde, j'ai révélé au monde qui est Dieu. J'ai donné les principes du royaume. On voit que les apôtres, ils n'ont rien compris. Souvent, les uns et les autres, nous sommes posés la question, « Oh, mais j'aurais quand même bien voulu vivre sur la terre au moment du Seigneur Jésus-Christ. Ah, » bon, ça ne sera pas. Mais il est plus avantageux que nous vivions maintenant. Parce que 3 ans avec le Seigneur est découragé. Il dit, « Mais ça fait 3 ans qu'on est ensemble, Philippe. Et tu ne m'as pas encore connu. Ah, c'est quand même. Vous voyez, quand Jésus était sur la terre, il était lui-même l'Esprit. Et il est plus avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, je vous enverrai l'Esprit, le Consolateur, le Prierai le Père. C'est ici le verset que j'ai préparé. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, c'est-à-dire un autre moi-même, mais pas tout à fait le même, c'est-à-dire dans son rôle, c'est le même, c'est lui-même, c'est un autre consolateur, mais dans son rôle, il va avoir un rôle différent. D'abord, ici, il est marqué, il sera avec vous, ça vous rappelle pas? Une alliance, hein? Perpétuelle, éternelle. Il sera avec vous pour être avec vous éternellement. C'est l'Esprit de vérité. Et c'est un autre moi-même. C'est l'autre consolateur. Consolateur, on peut aussi voir comme enseignant, on peut aussi voir comme avocat. Je veux, notez bien, c'est l'Esprit de vérité. C'est lui qui va vous apprendre et nous apprendre au plus profondément à faire le ménage dans nos croyances. Quand on s'est converti, on était comme les nations, même si vous êtes né dans une famille chrétienne, comme moi par exemple. Il y a 8 caractéristiques de la personne qui ne connaît pas Dieu. 8 caractéristiques, ses pensées sont obscurcies. Ah, on va le lire, on a le temps. Éphésiens chapitre 1, chapitre 4, si vous avez des Bibles. Éphésiens chapitre 4. Regardez, verset 10, 18. Donc Paul parle aux Éphésiens qui ne sont plus des gens des nations, mais ils étaient des gens des nations. Et il leur dit, il ne faut plus marcher comme avant. Parce que vous êtes maintenant dans la nouvelle alliance. Vous êtes des hommes et des femmes nouveaux. Et regardez, et il dit, il caractérise les gens des nations. Regardez bien. Un, les gens des nations qui, un, marchent dans la vanité de leur pensée. Deux, ayant leur intelligence obscurcie, ça veut dire enténébrée. 3. Étranger à la vie de Dieu. 4. L'ignorance qui est en eux. 5. Leur cœur qui est endurci. 6. Ils ont perdu tout sentiment moral. 7. Ils sont livrés à la débauche. 8. Ils pratiquent avidement toute impureté. Quand vous vous convertissez, il y a une seule chose qui change là. C'est laquelle ? C'est laquelle ?
Étranger à la vie de Dieu. Étranger à la vie de Dieu.
Étranger à la vie de Dieu. Tout à fait. D'étranger, on n'est plus étranger. On est enfant de la maison de Dieu. Mais le reste, alors ? Le reste, c'est tout un processus où l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, va évangéliser toutes ces parties sombres. Ça prend combien de temps ? Du temps, et du temps, et du temps, et une vie. Mais si vous êtes d'accord de recevoir, écoutez bien, ne me méprenez pas, n'est-ce pas ? De recevoir, c'est-à-dire d'accepter l'action de l'Esprit en vous. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. C'est marqué dans Romains, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui, c'est bien clair. Mais maintenant, on peut avoir l'Esprit de Christ et continuer à faire notre propre chemin. Est-ce qu'on est d'accord ? Mais l'Esprit de vérité, si vous êtes dans la soumission, et si vous dites au Seigneur, Seigneur, je me soumets, tout ce que tu vas me montrer, je suis d'accord que tu me transformes de l'intérieur. Et l'Esprit, il vous donnera, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité. Et il va faire quel travail ? Il va faire ce travail de déblayage et d'assainissement et de guérison intérieure. C'est l'Esprit de vérité. N'ayez pas peur de l'Esprit de vérité. Ça fait mal. On le rencontre. Elle dit, Bertrand, c'est pas encore ça. Bertrand, laisse-toi faire. Une autre passion. Donc, la première passion que je vais... Il y en a beaucoup de passions de l'Esprit. Mais la première que j'ai montrée là, c'est la passion d'être avec nous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Il est passionnément avec nous tous les jours et pour toujours. Attention, quand je ne peux pas faire une étude de 20 minutes de la personne de l'Esprit. Ce n'est pas un Red Bull. Vous comprenez ce que je veux dire, les jeunes ? Ce n'est pas une puissance énergisante, l'Esprit. C'est une personne qui vous habite, c'est Dieu lui-même qui vous habite, c'est Christ qui habite en nous. C'est le Seigneur dit, et nous ferons notre demeure, le Père éternel, le Fils éternel, l'Esprit éternel, en nous. Je vais m'arrêter là parce que sinon on risque de dire des bêtises. Parce que c'est Dieu lui-même qui est notre habitant. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de qui ? De Dieu. Dieu lui-même. Regardez le verset 14, 22, Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes les choses, vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Cet autre Consolateur qui est venu nous habiter, ne parle pas de lui-même. Il est comme, si vous voulez, le projecteur dans une ville qui va éclairer quelque chose de très précieux que tout le monde doit admirer. Ça va ? L'image ? Il est ce projecteur-là. Et l'Esprit en nous va nous montrer la gloire du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, le vivant aujourd'hui. Va nous faire vivre avec lui aujourd'hui. Il nous enseignera toutes les choses que je vous ai dites. Dans un verset, dans Jean 14, le Seigneur dit que je vous prierai le Père et il vous enverra l'Esprit qui sera avec pour être avec vous éternellement. Et dit, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. C'est le verset 19. Mais vous, vous me verrez. Ça, c'est un de mes versets préférés de la Bible. Et parce que moi, dit Jésus, je vis, vous aussi, vous vivrez. Mais de quelle vie? Mais de quelle vie? D'une vie passionnée, comme lui-même est passionné, de sa propre vie. Parce que Jésus vit, nous nous vivons aussi. Et dans des circonstances difficiles et douloureuses, pareillement. L'esprit nous rend la vue à nous. Et le monde est enfermé dans la cécité. Le monde ne me verra plus. Ah oui, le Seigneur est parti. Et nous, nous pouvons continuer à le voir parce que nous sommes habités de cet esprit-là. Encore une. Quand le Consolateur sera venu, lequel je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, celui-là rendra témoignage de moi. Ça m'a beaucoup intéressé quand j'ai regardé ce verset. Ça m'a beaucoup intéressé parce que le travail de l'Esprit me fait contempler la gloire du Seigneur, me fait contempler la beauté du Seigneur, me fait émerveiller de la beauté du Seigneur en lisant les évangiles, mais pas seulement. Dans ma vie de tous les jours, il rend témoignage de moi. Dans ma vie de tous les jours, c'est que je vois la gloire du Seigneur dans les évangiles, je vois la gloire du Seigneur dans la parole, et je vois la gloire du Seigneur dans mes circonstances, dans la délivrance de mes circonstances. Ce verset de Romains 5, verset 10, ayant donc été réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus tôt serons-nous, continués, sauvés par sa vie. Dans nos circonstances, Jésus vivant nous sauve. C'est-à-dire, ce n'est pas le salut de l'âme, c'est le salut de mes circonstances. Vous voulez un exemple? Par exemple, que l'exemple que je vais vous dire, c'est Paul à Philippe, avec le geôlier qui voulait se tuer, et Paul dit au geôlier, qu'est-ce qu'il dit? Ne te fais pas de mal, continuez, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Sauvé de son âme, sauvé dans ta circonstance. Nous sommes tous là, on n'est pas partis. Sauvé dans ta circonstance, ce qui l'a amené au salut. Jésus et nous ne traitons plus, excusez-moi, avec tout le respect que je dois au Seigneur, avec beaucoup d'humilité, je dis ça, nous ne traitons plus avec le Seigneur qui a marché avec des sandales et une grande tunique blanche et une grande barbe dans les chemins de Palestine. Ça, c'était le Seigneur sur la terre. Aujourd'hui, il est sorti du tombeau, il est vivant, monté auprès de son Père, notre Père. Il est, et nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur, et vivant, pour toujours vivant, pour sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et c'est l'Esprit là, rend témoignage de moi. C'est l'Esprit de vérité que nous avons reçu, passionnément rend témoignage de Jésus. Et regardez bien, témoignage de sa gloire, et par conséquent, continuez, et vous aussi, par ricochet, étant tellement émerveillé du salut de Jésus, de sa gloire et de sa présence, et de sa force et de sa proximité et de sa délivrance, qu'est-ce que nous faisons? On ne peut pas s'empêcher. On ne peut pas s'empêcher. C'est quand la dernière fois que vous avez parlé de Jésus à quelqu'un? Du trésor, qu'est-ce qui vous a d'abord? Première question. Les jeunes, qu'est-ce qui vous a dernièrement fait vibrer à propos de votre vie, votre amitié avec Jésus? Qu'est-ce qui vous a fait vibrer? Deuxième question, de cette joie, de cette expérience avec Jésus, Est-ce que vous l'avez partagé? Si vous ne l'avez pas fait, c'est dommage. Parce que quand vous partagez quelque chose, vous multipliez votre joie par 10. Si ce n'est pas par 50. Alors, on est dans un pays du vin, n'est-ce pas? Je peux ouvrir une belle bouteille de vin. Et je peux la boire tout seul. Je dis, oh, c'est bon. Mais il dit, mon frère, goûte-moi ce vin, là, goûte-moi. Je veux multiplier ma joie. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? L'action de l'esprit rend témoignage de la vie de Jésus. Et moi, j'aimerais prendre témoignage. Est-ce que vous êtes d'accord de dire au Seigneur, Seigneur, fais-moi vivre des choses avec toi. Et moi, je vais rendre témoignage de ce que je vis. Vous allez voir les opportunités. Elles sont par milliers. Il n'y aura pas un jour sans avoir la possibilité de témoigner. Il m'est arrivé une histoire il n'y a pas très longtemps. Passe dans les vignes, là je marche, et je dis bonjour à un vigneron qui travaille, puis on cause comme ça, puis voilà, puis je m'intéresse un peu à la vigne, et puis voilà. Puis tout à coup, un jour, plus tard, on a parlé comme ça, quand on se voyait, puis un jour il dit, mais, tu veux poser une question? Je dis, oui. Il dit, t'es croyant toi? Je dis, oui, bien sûr, je crois, Jésus-Christ est mon Seigneur, et vraiment, c'est mon Dieu. Il dit, je le savais. C'est ça. On transporte le Saint-Esprit. On vit avec lui. Ça transpire, quelque part. Et depuis, bon, voilà, c'est ça. Mais vous aussi, vous rendrez témoignage. C'est ça qui me plaît beaucoup. Le Saint-Esprit nous parle de lui et nous rendons témoignage. Quand celui-là, le Saint-Esprit, il est par la passion de convaincre le monde de péché. Ça me donne beaucoup de repos, ça. Ça me fait très mal au cœur de voir quelqu'un qui se perd. Quelqu'un qui m'a dit dans le train samedi, il m'a dit, moi, ma vie, c'est les chiens. J'ai dit, non, c'est pas les chiens, c'est pas... Mais non, on t'a trompé quelque part. Tu crois quelque chose qui est faux. Ta vie n'est pas dans les chiens. Ta vie, t'es destiné à connaître Dieu et à le rencontrer. Là, on a une conversation, il dit, on te trompe. Mais c'est pas moi de le convaincre plus que ça. L'esprit va diriger, va conduire. C'est sa passion de faire ceci. Mais quand celui-là, l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce qu'il vous est arrivé des fois de ne pas savoir ce qu'il faut faire? Je suis sûr que vous avez vécu ça. La passion de l'esprit, c'est de nous conduire dans la vérité. Mais il va conduire dans la vérité ceux qui se soumettent à lui. Et ceux qui sont d'accord de se laisser conduire, à ceux qui se soumettent à lui. Je me rappelle de ce jour-là, j'avais pas de travail, on était rentrés d'Afrique, dans des circonstances difficiles, ma femme était repartie aux études, moi j'avais pas de travail, on n'avait pas cotisé, on n'avait rien, tous les jours on demandait à Dieu notre pain quotidien, on était à genoux. Et Dieu nous a donné notre pain quotidien. Puis finalement, pour faire l'histoire très courte, j'ai dû faire un voyage à Brazzaville où on habitait avant. Et là, quelqu'un me dit, tiens, il y a le directeur de la compagnie aérienne qui cherche un pilote et il veut te voir. Et le gars, donc on se rencontre et le gars me dit, voilà, je veux vous engager comme pilote et je vous paye tant d'argent. On fait un contrat, tous les 3 mois vous rentrez en France, mais j'ai vraiment besoin de vous. Et là, je partais en Afrique du Sud pour voir notre fils aîné qui étudiait. Et je téléphone à ma femme, je dis, mais voilà, j'ai eu cette proposition. Elle m'a dit, mais peut-être qu'il faudrait voir, parce qu'on n'a rien du tout, et ça dure quand même, non, depuis plusieurs mois. Et finalement, Je vais en Afrique du Sud, je vois notre fils qui avait 18 ans, qui faisait ses études, et puis je lui parle de cela, et lui me dit, et je lui dis peut-être je vais prendre ce job, et il me dit, mais je ne comprends pas. Dans tous tes mails que tu me fais, tu parles des délivrances du Seigneur et comment le Seigneur vous délivre et comment il vous... de toutes vos circonstances. Et puis là, tu veux prendre un travail et tu vas abandonner maman et puis mes frères. Et il dit, moi, je ne crois pas, c'est de Dieu. Et je lui dis, oh, je ne suis pas père. À 18 ans, quoi. Et il dit, non, ça travaille dans mon cœur. Puis en rentrant sur Brazzaville, je vais avoir un rendez-vous. Et là, j'étais tiraillé. Et j'arrive à l'hôtel où on avait rendez-vous. On avait, c'est juste, j'étais chez un frère, mais on avait rendez-vous de cet hôtel pour signer le papier. Et le gars vient avec le dossier. Il dit, bon, alors voilà, le contrat est prêt. Et puis, il me dit, une paye mirobolante. Voilà, tout était bien, quoi. Logé, nourri, enfin, expatrié. Et je lui dis, ben non. Je ne veux pas le faire. Et moi, regarde, comment je ne veux pas le faire? Et bien non, je ne veux pas le faire. Ce n'est pas pour moi. Excusez-moi le terme, mais je vais le dire. Il me dit, vous êtes un vrai con. Et il a tourné les talons. Et il a dit, jamais personne ne vous proposera un tel contrat. Il a tourné les talons et je suis resté là. C'est difficile d'être là. Vous aviez quelque chose, là, ça fait un an et demi que vous galérez et que tous les jours, vous ne savez pas comment joindre les deux bouts, tout ça. Bon. Et quand même, la présence de Dieu était forte. Hein. C'est pas, je ne suis pas en train de me plaindre. Et le lendemain matin, dans ma lecture, je lis là. Et tout à coup, ça m'a frappé. Moi, j'ai toujours pensé que c'était la vérité théologique. Il vous conduira dans la vérité théologique, toute la vérité. Mais bien sûr, mais non, dans la vérité de vos décisions à prendre. Il est vivant, notre Seigneur, et il habite en nous. C'est ça. Car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Encore faut-il prendre le temps pour cela. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Mais il faut du temps pour le recevoir. Pas l'esprit, parce que nous l'avons, mais recevoir ce qu'il a à nous dire. Ça demande du temps. Quand Dieu dit, je veux être votre Dieu, je veux que vous soyez mon peuple, et nous sommes le peuple de Dieu. Et il y a plein de passages qui le disent. Mais ce n'est pas juste comme ça. C'est ce que Dieu est en train de dire, c'est tu ne veux pas prendre du temps avec moi. Tu ne veux pas prendre, tu ne veux pas t'asseoir, que je te parle. C'est ça. Je crois qu'on pourrait encore aller dans beaucoup d'autres versets pour parler de la passion de l'esprit. En quelques une heure et quart, on a parlé de la passion de Dieu, de la passion de Jésus pour nous montrer la passion de Dieu. Il l'a démontré. Et il nous a envoyé l'Esprit, Dieu l'Esprit, dans nos cœurs. Et il est passionné de nous, passionné de faire ce pourquoi il a été envoyé par Dieu. En chacun d'entre nous. Et dans l'Église aussi, passionné de l'Église. Puisque l'Église, c'est l'épouse de Christ. Et nous, nous sommes passionnés de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est éternelle. Donc, voilà, tout ce qu'on va faire pour la croissance de l'Église, ça a une valeur éternelle. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce que vous êtes d'accord de demander au Seigneur qu'il fasse vibrer notre cœur? Qui place un message dans notre cœur et que l'Esprit témoigne de Jésus dans notre cœur, dans notre vie, de telle manière que on va refléter sa gloire, on va transpirer Jésus. Écoutez, laissez-moi vous raconter encore une autre histoire. Ça va? J'étais au mois de juin, il y a quelques semaines, dans Côte d'Ivoire, invité par notre relais là, qui me dit: Bertrand, oui, que tu viennes et que tu annonces la parole. Il y a 70 pasteurs qui seront là. Donc toute la semaine, 70 pasteurs, je me suis régalé à leur apporter le Seigneur. Et on s'est régalé ensemble, notamment, qu'est-ce que ça veut dire d'être en Christ? C'est être en Christ, c'est les richesses de la gloire, de l'héritage de Dieu en nous. On n'a pas touché le bord de l'océan, là encore. Hein. Mais on en parle, et eux, ils boivent. C'est la première fois qu'ils entendaient ça. À la fin de la rencontre, on avait des réunions, hein, 8h du matin, 9h30 le soir. Bon, bien sûr, on avait des pauses, mais quand même, c'était intense. Beaucoup de questions, beaucoup de travail. Mais un cœur, moi, mon cœur, il allait exploser. Beaucoup de bonheur. Et puis, le vendredi soir, le responsable de ces pasteurs veut un entretien. Marcel, il s'appelle. Et il nous raconte. Dis-moi, je suis né au campement. Le campement, ce n'est pas le village. Le campement, en Côte d'Ivoire, c'est au milieu de la forêt. C'est-à-dire que son père et sa mère ont défriché un morceau de forêt, ils ont fait une hutte et ils ont cultivé là, et les enfants ont grandi là. Il dit, moi, je ne suis même pas allé au CP, je ne sais pas lire ni écrire. Et quand j'étais jeune, j'ai entendu l'évangile, je me suis converti. Comme une personne lui avait dit qu'il ne fallait pas prier pour les malades et qu'il ne fallait pas chasser les démons et qu'il fallait... Ben, il a fait ce que Jésus faisait. Puis les gens, le Seigneur l'accompagnait. Mais lui, il ne lit pas la Bible, hein, il ne connaît pas la Bible. Il ne sait pas lire ni écrire. Mais il a encouragé, puis il a appris un peu à lire et il a encouragé. 15 ans plus tard, il y a 250 églises quand même. Et il me dit, Bertrand, moi je ne sais pas lire. Alors, ce n'est pas un rap bibliothèque, hein. Il dit, Bertrand, je te supplie, viens nous aider. Les pasteurs là, que j'ai là, ils attendent tout de moi et moi je ne suis pas capable. Ils ne peuvent pas aller dans une école biblique parce qu'ils sont trop vieux, ils n'ont pas les moyens. Ils ont... Est-ce que tu ne peux pas nous aider? Moi, je me dis, mes frères et sœurs, quand je vous vois là, c'est quoi votre mission? C'est quoi votre mission? La croissance de l'Église. L'esprit est passionné par la croissance de l'Église. Il y a des femmes, elles ont besoin de femmes qui leur parlent. Il y a des jeunes, il y a des hommes. Et ceux qui enseignent l'école du dimanche, ça serait l'affaire. Ils ne servent à rien. Mais ils sont convertis. Ils aiment le Seigneur. Ce n'est pas des pauvres. Ne vous trompez pas, ce n'est pas des pauvres. Ce sont des agriculteurs qui cultivent le café, qui vendent le café, qui vivent normalement dans leur village. Et les églises sont pleines. Est-ce que vous diriez au Seigneur ce soir, là où tu veux ton Dieu, je suis d'accord. Est-ce que vous seriez d'accord en entendant la passion de Dieu qui a envoyé son propre Fils et qui nous donne toutes choses avec lui? Est-ce que vous seriez d'accord de dire, Seigneur, ta passion, si elle brûle dans mon cœur, je suis d'accord de me soumettre à toi? On va se lever si vous voulez bien.